Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi.
Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou.
Je vais aux toilettes.
Oh, le con.
Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de Dieu. C'est de la pomme de terre.
30 secondes.
Alors, attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur.
Ça coûte. C'est marrant, un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre?
J'ai pris le gros sel à la place du sucre, Gaston.
Tu veux rentrer chez toi?
Tu peux rentrer chez moi?
Je veux pas rentrer chez moi!
Il est parti.
C'est la catastrophe.
J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles.
3, 2, 1, c'est parti.
Salut tout le monde, bienvenue dans Micro-Ondes Podcast, le podcast qui débriefe Top Chef, l'émission culinaire préférée des Français sur M6 tous les mercredis et le vendredi matin dans vos oreilles. Raoul Villeroy au micro, très heureux de vous retrouver pour cet épisode 13 de la saison... Oui, c'est ça. Épisode 13 de la saison 13, incroyable, on est toujours là avec une brigade de choc. Sébastien Polomini, l'immanquable, est avec nous. Salut Seb.
Salut Raoul, salut à tous. De retour après une petite semaine de repos.
C'est ça. Et Raphaël Masmejean est toujours là. Salut Raph.
Salut Raoul, salut Seb et salut à tous.
Messieurs, aujourd'hui, la star de notre émission, c'est Louise. Louise qui a remporté assez largement le prime de mercredi, si on peut dire. On va revenir un peu sur elle. On va pouvoir commencer par ça, messieurs. Ce sera notre premier sujet. Est-ce que Louise est surestimée, sous-estimée? Peut-on séparer la cuisinière de l'artiste, de la femme? On verra. Et puis, on reviendra bien sûr sur les épreuves d'hier, l'épreuve de Mike Bagal et l'épreuve de Anne-Sophie Pic. On sera obligé de parler de la dernière chance, mais on fera vite. Et notre classement, bien sûr, classement... Ah, petit changement dans le classement. Très bien. Je ne vous spoil pas plus, je lance le premier jingle et on se retrouve juste après pour débriefer tout ça. C'est parti.
Tac, tac.
Bang, bang.
Hé, hey, tu te calmes.
Si tu ne te qualifies pas là, t'as rien à faire en top chef.
Après avoir fumé ma viande, je compte bien fumer Mathias aujourd'hui.
3, 2, 1, top, c'est terminé, c'est terminé.
Louise attaque, messieurs, elle met les petits plats dans les grands. Hier, Louise a fini deuxième de la première épreuve, première de la deuxième épreuve. C'était une émission avec, comment ils appelaient, la règle du tous pour, un pour tous pour un. Donc les points comptaient pour la brigade sur les deux épreuves. Et c'est Louise qui l'a remporté. Et il faut avouer que depuis qu'on fait notre classement en début de saison, on a souvent mis Louise assez haut parce qu'on a trouvé, je crois, qu'elle était plutôt convaincante dans ses cuisines, malgré quelques passages un peu hors sujet, on va dire. Tout le monde pense au gras de bœuf. Enfin, à part ça, il n'y en a pas eu des masses, je trouve. Et eh ben, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quand même, est-ce qu'on peut dire une sous-estimation de Louise de la part du grand public. Raphaël, comment est-ce que tu ressens la chose?
Écoute, visiblement, alors je sais pas si le grand public, c'est tout ce qu'on peut voir sur Twitter notamment, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de poster notre power ranking, j'ai vérifié, Louise est dans le top 3 depuis le début de la saison.
Ouais.
Et sur le podium à chaque fois, donc nous ça fait longtemps qu'on croit en elle, on va dire ça comme ça, et on avait souvent la remarque, vous l'avez trop haut, elle a pas gagné tant d'épreuves, elle a pas eu tant de coups de cœur que ça. Peut-être qu'effectivement, dans une saison où, de toute manière, il n'y a pas eu non plus 15 assiettes coup de cœur, hein, on va pas se le cacher. In fine, moi, j'ai jamais eu le sentiment qu'elle était passée totalement à côté. Elle est toujours bien placée. Et hier, c'était un peu ce qu'on attendait. Et de toute façon, c'est ce qu'on avait dit aussi une bonne partie de la saison, c'est que Louise, on la voyait comme ce type de candidat, plus technique, pas ceux qui ont la cuisine laser, mais par contre ceux qui... originalité, la créativité pour créer les plats émotion, on va dire. Et hier, j'ai l'impression que c'est quand même ce qu'elle a réussi à faire. Donc, je pense qu'elle est un peu sous-estimée par une partie des gens qui j'ai l'impression de, comment dire, sont toujours étonnés qu'il y ait des candidats qui gagnent pas tout, que tous les candidats en fait peuvent pas être David Gallienne finalement et tout ouais. réussir tout le temps. Et voilà, et on voit chaque année Top Chef, t'as des candidats qui comme ça réussissent une assiette sur deux, une assiette sur trois, mais c'est tellement bien réussi que ça va au bout en fait.
Comme Mohamed l'an dernier d'ailleurs. Mohamed au début il gagne pas des tonnes de trucs, enfin j'ai pas souvenir qu'il gagne des tonnes de trucs la première partie, même les deux tiers de la saison hein. Seb, Louise, bah toi tu es comme nous je crois plutôt confiant pour la suite du concours pour elle, jusqu'où tu la vois aller?
Ah clairement au minimum demi-finale. Après demi-finale bon ça se joue sur un rien. Mais on voit qu'elle a quand même le niveau technique, elle a le degré d'inventivité qu'il faut. Après, peut-être que ce qui joue contre elle, c'est bon, son caractère bien trempé, mais bon, elle est chef de son resto. Je pense que dans ce milieu-là, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc il faut montrer que tu as du caractère, c'est peut-être ce qui gêne aussi.
Oui, et c'est ce que j'allais te demander, donc tu anticipes très bien. Je suis assez d'accord, peut-être son caractère et la candidate Louise rebute un peu. J'étais un peu dans ce camp-là au début de la saison, c'est vrai. Et puis en fait, petit à petit, on s'y fait. Et à l'inverse de beaucoup d'autres qu'on a vus et qui ne sont plus là, au moins on s'en souvient. On l'a souvent fait le reproche cette saison qu'il y avait peut-être peu de personnages. Arnaud a mis un peu de temps à se révéler, mais aujourd'hui il est là. Michael un peu aussi. Louise également. Mais voilà, bon, on n'a quand même pas eu des tonnes de coqueluches, on peut dire. C'est ça qu'on dit, hein, la coqueluche du public. Je suis pas fou, c'est pas une maladie. Hein. Non, c'est bon. quoique si aussi. Bon, bref, on n'a pas eu de chouchou comme les années précédentes. Louise sera pas forcément la chouchou de cette année, mais je pense qu'elle sera une candidate emblématique de cette saison 13. Et si elle peut aller en demi, voire en finale, je serai loin d'être surpris. Raphaël, même question, tu la vois aller jusqu'où?
Ouais, comme vous, demi-finale minimum, et à finale potentielle. Enfin, on va le voir plus tard dans notre classement, tout ça. Et de toute manière, le fait qu'on la mette sur le top 3 depuis le début de la saison, je pense que du coup, pour elle, demi-finale, ouais. C'est le minimum. Ouais.
On est assez d'accord. Donc bon, voilà. À vous de vous faire votre avis sur Louise. Évidemment, nous, on est plutôt convaincus et on va pouvoir revenir sur ce qu'elle a produit ainsi que ses camarades lors de l'épreuve de mercredi soir. La première épreuve, c'était l'épreuve du chef américain Mike Bagal. Alors, merci pour lui de bien dire Bagal et pas Bagel, comme ça a été le cas à 2-3 reprises pendant le prime, surtout de la part de Wilfried, notre grand voyageur, c'était quand même pas terrible. Le ballon, là, je sais pas ce que vous en avez pensé, messieurs, le truc qu'il présente au début. Sans le goûter, je trouve ça un peu kitsch, cheap, j'arrive pas trop à me décider. Seb, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce plat qu'il présente?
Alors, de son plat et de l'épreuve en général, j'ai trouvé ça un petit peu... Ça allait vite me gonfler, et ça servait parce que c'est absolument inutile, quoi. Tu bouffes de l'hélium... ouais, voilà. Tu bouffes de l'hélium à la pomme, quoi. Donc apparemment, j'ai regardé sur lui, c'est le roi des chefs au niveau de l'événementiel. Ah, c'est sûr que ça doit taper dans l'œil. Tu dois avoir toutes les influenceuses qui doivent se prendre en photo devant le ballon. Je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Mais après, tu n'as aucun intérêt gustatif dans ce qu'il a proposé.
Raph, toi, je crois que tu n'es pas non plus le fan numéro un des shows culinaires. Qu'est-ce que cette épreuve t'a inspiré?
Ouais, pas grand-chose non plus. C'est vrai que quand on voit le ballon, c'est marrant. Mais après, quand on apprend que c'est juste un truc à la pomme, disons gustativement, on vient peut-être pas, on tombe pas de notre chaise, hein, contrairement à d'autres chefs qui des fois font des trucs plus visuels, aussi visuels, peut-être pas aussi étonnants qu'un ballon, mais en tout cas, il y a le visuel et il y a le goût original intéressant. Là, c'est vrai que ça cassait pas trois pattes d'un canard, et j'ai presque trouvé les propositions de tous les candidats plus intéressantes que celles du chef américain pour le coup.
Je suis assez d'accord avec toi. Mais en fait, maintenant, peut-être que logistiquement parlant, c'était le truc le plus réalisable par le chef pour l'arrivée des candidats aussi. Peut-être qu'il ne pouvait pas non plus faire un show à but. Bon, je ne sais pas trop, mais bon, ça m'a, à ce moment-là, ça ne m'a pas vendu trop de rêves. Donc, on demande aux candidats de faire manger au chef Bagal l'impossible. Et Pascal, qui ouvre le bal, a une idée qui a l'air impossible sur le papier, effectivement, c'est de faire manger au chef un des piments les plus forts du monde. J'ai l'impression que ça me rappelle un truc, le deuxième plus fort. Ah si, c'est pas dans les 11 commandements avec Michael Youn où à un moment ils doivent bouffer un piment de ouf s'ils perdent. Ça me dit quelque chose.
Ouais.
Je suis désolé, je vais chercher dans vos souvenirs profonds et enfouis que vous vouliez pas ressortir, mais bref, donc bonne idée. Avec le principe de faire... d'anesthésier le palais du chef via le froid et au milieu de mettre la boule de piment habanero avec un petit crémeux de persil citron persil estragon et un praliné de cajou sous une neige au citron avec la petite boule de glace citron rhum à côté. Ça a l'air, enfin sur le papier quand il l'a expliqué Raphaël, on s'est tous dit que c'était une idée de fou si ça fonctionnait.
Ouais sur le papier effectivement c'était assez intéressant. Peut-être pour nous, pas le plus facile à juger quand même malgré tout depuis le canapé, on va dire, parce que tout se joue en fait sur le côté pimenté et c'est peut-être ce dont on avait le plus de mal, je trouve, à se rendre compte de ce que ça pouvait donner en fait comme dégustation pour le coup. Alors autant Wilfried, tout ça, on y reviendra, t'as une idée de ce à quoi ça ressemblait à déguster. Autant Pascal, c'était compliqué, mais en tout cas, ça a clairement tapé dans l'œil, c'était joli, c'était créatif. Donc clairement le minot comme on l'appelle a tapé fort sur cette épreuve. Ouais.
Et puis Seb derrière, Paul Perret nous sort un discours digne d'une entrée au Hall of Fame de la cuisine. C'est mérité ou c'est un peu too much pour toi?
Non, c'est quand même fort ce qu'il a fait, hein, parce qu'il a essayé de faire manger donc l'aliment central de son plat, c'était le piment, quoi. C'était pas d'autres trucs un petit peu farfelus. C'est vraiment essayer de faire manger le piment, tout en inversant la sensation que te fait un piment quand tu le manges, quoi. Avec c'est la glace qui t'apporte la sensation de brûlure et le petit côté pimenté qui vient relever tout ça. D'ailleurs, il a failli s'étouffer, Pascal, quand le chef lui a dit « Mais vas-y, mets la dose ». Et en plus, bon, il avait mis sa glace carbonique, il me semble, là, pour faire cet effet d'halo de fumée qui était très joli.
C'est vrai.
Donc pour moi, il a tapé très 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 fort et il a largement mérité sa victoire.
On est d'accord, évidemment, vous connaissez mon amour pour Pascal, je n'étais pas surpris, au contraire, j'étais ravi que ça fonctionne. On aurait pu avoir une catastrophe à base de cartoon, dessin animé avec le chef qui court dans les cuisines, la tête en feu et qui plonge la tête dans un bassin. Ça aurait été drôle, mais ça n'a pas eu lieu. C'est vrai que Pascal a un peu rempli ce rôle-là en goûtant son plat. Donc, première place pour lui sur cette épreuve, bravo. Derrière, on a Louise, alors qui, elle, a fait un truc que j'ai eu peur longtemps pour elle, l'idée de dire on apporte tout, mais en fait tout se mange sauf l'assiette, sauf ce qu'il y a dans l'assiette puisque l'assiette est vide, et de faire une nappe comestible, de faire des fleurs comestibles, de faire un vin comestible, enfin en l'occurrence de pas faire du vin, mais un dashi aux champignons. J'ai trouvé ça très... Alors au début ça a mis du temps à se mettre en place, ça avait l'air pas très réussi, et au moment où elle sort la nappe qu'elle envoie à la fin, là, pour le coup, je trouve le visuel très fort, vraiment réussi et l'illusion assez parfaite. Simplement, Seb, je suis un tout petit peu déçu, je ne sais pas ce que tu en penses. Je me dis, quitte à faire ça, est-ce que tu ne fais pas un faux couvert, une fausse bouteille, enfin, tout à manger sauf l'assiette et limite tout le reste, quoi.
Ouais, je pense que si tu as le temps, tu peux pousser le concept. Maintenant, il me semble qu'ils n'avaient que 2 heures.
Ouais.
Et elle a quand même sorti pas mal de taf, surtout qu'elle a galéré pour faire sa nappe, qui à base de calamar ne fonctionnait pas parce qu'il manquait quelque chose pour faire le lien. Tu voyais, ça se tenait pas du tout, donc elle a rebondi sur de la farce fine de poulet. Et elle a rajouté ses fleurs qui rendent super bien. Mais après, bon, par contre, niveau hygiène, poser sa nappe directement sur la table...
Ouais, j'espère qu'ils l'ont lavé avant.
Ouais, je pense qu'il y a quand même quelques soucis. Après, bon, ça, voilà, le chef a demandé d'être surpris. Il a été très surpris quand il a vu arriver l'assiette vide, quoi.
Et d'ailleurs, c'était assez sympa, Raphaël, ce moment où on dit au chef, bon, voilà, c'est devant vous, il comprend pas ce qui se passe. L'illusion avait l'air de bien fonctionner.
Complètement. On a vu le chef américain qui regarde pendant 30 secondes, qui comprend pas et qui tout d'un coup fait, ah ok, je crois que ça y est, j'ai compris le délire. Donc, visiblement, ça marchait quand même vachement bien en vrai, comme tu l'as dit sur le. Depuis chez nous, l'illusion était quand même pas mal du tout. La nappe en soi était un peu moche, mais bon, de toute manière, je suis pas sûr qu'elle pouvait faire beaucoup mieux que ça. Non, moi, j'avoue, j'ai été bluffé par la technique pour le coup, parce que comme toi, je voyais pas comment elle allait y arriver, je voyais pas comment elle allait réussir à obtenir un truc hyper fin qui puisse se plier, mais sans se casser, parce que La nappe y a dépassé de la table. Hein. Il y avait comme des bords, on va dire. Donc, des retours. Franchement, plutôt bluffé par ça. Gustativement, c'était peut-être pas le truc le plus incroyable, mais ça a eu l'air quand même de marcher malgré tout. Mm. Non, franchement, chapeau bas sur ce truc, parce que pour le coup, c'était vraiment original, ça, la nappe.
Ouais, j'ai jamais vu non plus. Du coup, j'imagine le chef qui arrive devant son truc de dégustation et qui se dit « Oh putain, comme la nappe, elle est moche !» Ouais, bah, t'inquiète frérot, c'est parce qu'il faut la manger. Derrière, Wilfried. Alors les gars, Wilfried, incroyable. Est-ce que vous saviez... vous me voyez venir. Est-ce que vous saviez qu'il avait fait les tours du monde? Non, mais parce que c'est incroyable quand même l'histoire de ce garçon. Je suis désolé, mais j'en peux plus. Vraiment...
C'est un peu forcé.
En fait, j'entends que sans doute pour les gens qui attrapent en cours de saison, on te le redit pour pas que tu sois surpris encore, c'est pas très grave. Mais ouais, pour les gens qui regardent assidûment comme nous et qui doivent faire un podcast toutes les semaines dessus, on le saura que Wilfried a voyagé. Maintenant, son idée est pas inintéressante de dire 5 bouchées, 5 voyages, 5 pays. Il faut forcément que ce soit très représentatif et il a choisi des cuisines qui avaient l'air plutôt représentatives. Donc pour rappel, il a fait 5 bouchées dans des petites, ce qu'il a appelé des pizzas, pizzées, mais bon, je ne les retrouvais pas trop. En l'occurrence, il y avait une bouchée indienne au curry poulet, ça c'est facile. Il y avait une bouchée thaïlandaise Tom Kha, il y avait une bouchée marocaine de tagine, un lecce des tigrés péruvien, ça c'est la spéciale Wilfried, et camembert vin rouge pour la France, bien sûr, Cocorico. C'était une pâte, comment ils appellent ça, une pâte soufflée, charbon végétal, bon, très bien.
La pizza soufflée.
C'est ça. Tout noir maintenant, Seb, c'était peut-être visuellement un peu, pas simple, mais bon, du coup, ça invitait pas forcément au voyage, quoi.
Ah, c'est sûr, comme ça fait penser plus à des crottes de bique ou à autre chose. Après, l'avantage, ouais, il a voulu faire voyager le chef, il a misé sur, à chaque fois, donc, les goûts francs de ces pays. Et la chance qu'il a eue, c'est qu'il est tombé sur un Américain qui s'y connaissait à peu près en géographie. Donc, il a pu s'y retrouver, même s'il a eu du mal à retrouver le camembert. Ouais. Mais bon, à part ça... Après, voilà, tu vois, quand même, par rapport aux propositions de Louise et de Pascal, qu'au niveau créativité, bah, tu étais quand même un degré moindre.
C'est vrai. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, Raphaël, c'est que peut-être que gustativement, nous, c'est ce qui nous a le plus parlé, parce que c'est des goûts qu'on a, en tout cas, pour la plupart, l'habitude de connaître.
Ouais, effectivement, c'est des goûts qu'on a l'habitude de connaître. Ouais, moi, j'ai vraiment pas été convaincu, pour le coup, par la proposition de Wilfried. Je trouvais pas ça d'une originalité monstre, finalement, de proposer un tour du monde gustatif. Bon, au final, je voyais pas trop où était la proposition. Et après, même sur la façon de le déguster en tant que tel... Ah, je sais pas, enfin des boules de pizza farcies à l'intérieur, c'est pas non plus. Enfin, ouais, moi je vraiment pas du tout compris ce qu'a essayé de faire Wilfried sur cette épreuve. Il s'en sort pas mal parce que le quatrième s'est encore peut-être plus foiré sur son idée, sur son concept. Et pour moi, la troisième place est largement méritée pour le coup. Hein.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. En plus, je me suis dit à la rigueur, si t'avais... parce que de mémoire, il a fait des siphons qu'il a mis à chaque fois dans ses petits trucs soufflés. Je suis pas fou, hein.
C'est ça.
Et bah, est-ce que ça aurait pas... Enfin, moi, tu vois, j'aurais limite préféré un qu'il mette vraiment ce qu'il a fait déguster et que ce soit un truc un peu... Le curry, que tu l'aies vraiment, que tu goûtes la texture du poulet à chaque fois et tout. Ouais, ça... Pas convaincu non plus, l'idée est sympa, mais c'est pas ce qu'il y a à faire dans cette épreuve-là, je pense qu'il y avait quand même beaucoup mieux.
Le taf abattu pour juste finalement faire un petit coup de siphon dans une petite boulette, c'est quand même 5 préparations de quasiment 5 plats différents. Je trouve que ouais, à la fin, c'est un peu... tu te dis ouais, tout ça pour ça, quoi. C'est un peu... bref.
Non, mais je suis d'accord. Et enfin, parce que quand même, du coup, il fallait quelqu'un pour cette dernière place, vu que ça n'allait pas être pour Wilfried. Arnaud a pété un plomb. Il y a la lumière qui s'est éteinte. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais il s'est dit, déjà, j'ai eu du mal à comprendre quand il l'a expliqué. À la dégustation, ça allait un peu mieux, mais quand il l'explique au chef Viel, il dit qu'en gros, il veut faire un tequila paf, mais qui n'est pas un tequila paf, qui est un... Déjà, eux, ils appellent ça un tequila boum boum en Belgique, très bien. Et, mais c'est pas avec de la tequila, du citron et du sel, mais c'est avec de la moule frite. Ouf. Alors, déjà, à mon avis, tu fais goûter ça à quelqu'un qui est un peu au courant de la gastronomie belge et qui voit le moule, les moules frites, et très bien. Mais là, tu fais goûter ça à un Américain. Genre, Seb, c'est pas audacieux, c'est complètement fou, non?
Ouais, complètement. En plus, surtout, j'ai pas compris. Donc, quoi, le chef vient, lui dit, mais va plus loin, pousse dans la folie et tout, il manque un truc fantasy. Et là, il te sort un trompe-l'œil de coque de moule. Donc, je voyais pas très bien le rapport avec son tequila.
Pas terrible, moi, j'ai trouvé en plus le trompe-l'œil, honnêtement. Enfin, c'est pas.
Sûr. Ouais, ça ressemblait vaguement. Donc, mais bon, je voyais pas le rapport entre donc, ce coquille de moule et le tequila paf, quoi. Donc, ouais. Après, bon, sa dernière place est quand même méritée.
Raphaël, bon, c'est une fausse bonne idée qu'il a eue là, Arnaud.
Ouais, je sais. Moi, j'avoue que sur le moment, je me suis dit, ok, pourquoi pas, le côté tu prends un plat normalement qui se mange de manière très, très consistante, très, très mâche, on va dire, et tu le transformes en shot à prendre. Sur le papier, bah, pourquoi pas. Après, effectivement, comme dit Seb, je comprends pas du coup ce que vient faire la moule, parce que je vois pas quelle est sa place dans le tech paf. Enfin, un tech paf, en théorie, tu te prends ton truc de sel, le shooter, et puis tu manges le citron. Du coup, là, la moule, c'était quoi? C'était censé être le sel. Enfin, bon, bref, on sait pas très bien ce qu'elle était là-dedans. Il s'est un peu foiré. Visiblement, c'était quand même un peu trop simple, peut-être, ou pas incroyable. Donc, fausse bonne idée, effectivement. Fausse bonne idée, même si je pense que peut-être s'il avait eu encore plus de temps pour le préparer, peut-être que ça aurait pu donner un peu mieux. Du coup, moi, sur le papier, je trouvais ça plus original que Wilfried.
Ouais.
Après, effectivement, ça a juste pas marché, parce qu'en plus, le chef a pas compris tout de suite. Il a mis du temps, après la coque de moule, à boire le shot. Mmh. Je suis même pas sûr qu'il ait pris le citron tout de suite après. Le shot de moule était pas assez fort, parce qu'en théorie, tu prends le citron pour contrer le côté très fort de la tequila. Je pense pas que le jus de moule t'arrache la bouche au point d'avoir besoin du citron. Donc bon, c'était un peu raté, mais...
C'est vrai que dès là, au moment où tu dis ça, j'ai des souvenirs lointains de moments où je prends des tequila paf. Heureusement, c'est rare. Et donc, bah voilà, dernière place pour Arnaud. Donc, l'ordre dans lequel on nous a présenté les candidats était l'ordre final de l'épreuve. Je le rappelle, Pascal en 1, Louise en 2, Wilfried en 3, Arnaud en 4. Donc, respectivement 3, 2, 1 et 0 points pour ces brigades-là. Louise étant seule dans sa brigade, donc c'est elle qui fait les deux épreuves. Ce que je trouvais pas inintéressant d'ailleurs comme format. Alors, les gens en ont marre qu'on change toutes les semaines de format et de règles et de machin, mais pour une fois c'était pas absurde, en mode il y en a un qui fait la moitié de l'épreuve, puis l'autre brigade qui fait seulement à deux candidats sur trois l'autre moitié de l'épreuve. Au moins là ça se tenait, il y avait un esprit de brigade, un esprit d'équipe. J'ai trouvé ça pas trop idiot. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Raph, peut-être d'abord.
J'ai adoré, je serais partant pour que toutes les épreuves de la prochaine saison se déroulent sous ce format-là. Même quand tu as trois candidats, bah, y a un des candidats de la brigade qui fait l'épreuve tout seul et les deux autres font la deuxième épreuve. Et tu qualifies à chaque fois, à la fin des deux épreuves, les deux meilleures brigades, les deux brigades qui ont le plus de points. Et tu envoies en dernière chance les candidats des deux dernières brigades, où le chef en choisit un parmi eux. Et du coup, comme là, ils ont fait le candidat qui a gagné le moins de points. Mais non, moi, je trouve ça très bien. Comme ça, tu joues une brigade sur l'ensemble des deux épreuves, et pas juste une brigade qui se qualifie d'un coup sur une seule épreuve, quoi. Enfin, je 100% pour.
Ouais, je suis assez d'accord. Seb, qu'est-ce que toi t'en as pensé?
Ah ben, je rejoins Raph. C'était vraiment excellent, parce qu'au moins tu as pu voir tous les candidats cuisiner individuellement. Donc même si voilà, il y en a qui auraient préféré peut-être l'autre épreuve, tu sais pas comment ça a été tiré au sort, mais au moins tu les vois tous. Louise a fait les deux, c'est normal, elle était seule. Mais voilà, moi je rejoins Raph. Il faut qu'il pousse dans cette idée-là pour, voilà, celui qui a le maximum de points continue dans l'aventure. Et après, les derniers, donc, ben, après, en plus, on en rediscutera pour la dernière chance. Mais j'ai trouvé que pour une fois, le choix des derniers candidats était le bon aussi.
Oui, parce qu'en plus, tu as cet élément tangible de dire, bah, c'est toi qui as moins bien réussi cette émission. Donc, tu envoies cela en dernière chance. Mais je suis d'accord. Et en fait, en y repensant, je suis en train de me demander si M6 n'essaye pas un peu tous les formats qu'ils peuvent cette saison. Et peut-être que l'an prochain, ce sera un peu plus établi sur les retours. Donc, comme on sait bien qu'M6 écoute tous nos épisodes, voilà, retenez ce format, il est très bien. Donc, la deuxième épreuve avec la chef Anne-Sophie Pic, messieurs, qui venait pour une épreuve. Alors, voilà, c'est ce que j'ai dit hier dans notre... dans notre chat interne, hein. Moi, quand tu me vends une épreuve autour des légumes, comme le haricot, l'endive ou la betterave, moi, ça me fait pas rêver, je vais pas vous mentir. La première épreuve, bon, c'était un peu what the fuck, mais au moins, je m'y retrouvais. Là, bon, faut cuisiner des légumes, ouais, ok, cool. Non mais voilà, moi ça me parle un peu moins, tant pis. Et alors je suis obligé de vous partager la réflexion que m'a faite ma femme à un moment pendant qu'on regardait, de dire ah ouais, donc là l'enfance de la chef Pic, c'est quand même des endives et des betteraves, bah putain ça devait être fun. Ok, c'est vrai que je repense pas forcément à ça dans mon enfance, mais très bien, tant mieux si ça lui a plu. Et j'ai l'impression que ça a parlé à la plupart des candidats. On va pouvoir y revenir. Messieurs, Anne-Sophie Pic, un petit mot d'abord. À chaque fois, évidemment, on dit que la chef d'Arose pourrait peut-être être challengée par M6. Est-ce que Anne-Sophie Pic ferait un bon choix de remplacement, selon vous, Raphaël ?
Écoute, moi, je sais pas, je la trouve hyper, hyper pédagogue, gentille avec les candidates, elle les pousse, elle donne des conseils, elle explique bien les choses, je la verrais bien. Maintenant, c'est vrai, la question, c'est, elle le fait à chaque fois sur une émission. Est-ce que toutes les semaines, elle aurait la même attitude ? Je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien voir une saison, un test avec elle. Alors après, peut-être que son emploi du temps et l'envie, tout simplement, font qu'elle préfère juste venir une émission et être la star d'une émission. Et voilà. Hein. Mais écoute, moi, j'aimerais bien. Ouais.
Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que peut-être toute la saison, ce serait un peu pas compliqué, j'en sais rien, je la connais pas, mais elle a l'air plutôt discrète comme chef. Est-ce que Seb, toi tu penses que ce serait une bonne idée, une mauvaise idée, qu'est-ce que tu en dis?
Moi j'aime bien le chef Pic, il y a pas de souci sur ça. Après je pense qu'elle est peut-être un peu trop timide sur le par rapport à la caméra, qui peut expliquer pourquoi elle ne prend pas de brigade. Voilà, après bon, ça s'apprend, il n'y a pas de souci. Après j'ai trouvé son épreuve voilà, de prime abord assez chiante.
Merci.
Je vais pas te le cacher, mais au final je l'ai trouvé plus intéressante que la première.
Et tu dis le chef, ou je sais pas s'il faut dire le chef ou
voilà,
la chef.
Ouais, la chef, je sais pas.
En tout cas, voilà, enfin, chef.
Voilà. Mais bon, après voilà, comme la girafe tout à l'heure, après voilà, toujours de bons conseils après chaque candidat. Elle attendait que les candidats expliquent la recette, elle revenait derrière, attention, il faudrait rajouter ça, attention, il manque de l'équilibre, attention, appuyer sur les goûts. Donc toujours de bons conseils, j'ai trouvé qu'elle était très bien sur cette épreuve.
Ouais, je suis assez d'accord. Et pour le coup, c'est ça en fait qui fait que je pense dans la tête, en tout cas dans la mienne, on se pose la question de est-ce qu'elle pourrait remplacer Darro. C'est que vraiment, elle est très pédagogue et intéressante avec les candidats à chaque fois. Même si, voilà, encore une fois, rappelons-le, Hélène Darroze reste sur 2 victoires consécutives. Donc on ne peut pas nier ses compétences de coach également. Les candidats, sur quoi se sont-ils lancés? Ils avaient un ingrédient tiré au hasard. Le premier, c'était Mickaël, avec la carotte. Mickaël, qu'on nous vend comme le maître des cuissons de viande depuis le début, et à qui on demande de faire un plat autour de la carotte. En l'occurrence, il avait l'air de dire que c'était pas forcément le pire des légumes pour lui. Et il avait une approche intéressante, notamment avec cette espèce de vin de carotte. Seb, j'ai pas tout compris comment il voulait faire son truc, mais ça m'a interpellé et ça a eu l'air de plaire à la chef aussi. Est-ce que tu peux, comment on peut apporter du tanin à la carotte? J'arrive pas à comprendre.
Bon, en fait, c'est pas vraiment ça, on va dire, c'est plus un jus de raisin carotte. Qu'un vin, quoi. Après, vin, voilà, c'est plus pour l'appellation. Il n'aurait pas eu le temps de le fabriquer. Mais voilà, l'idée était bonne. Il a mélangé donc la carotte la plus violette à son raisin pour essayer de ne pas trop tirer sur la sucrosité du raisin. Après, voilà, le coup de givrer le verre était sympa aussi avec le caramel et le crumble de carotte. Et au final, il s'est retrouvé avec peut-être le légume le plus simple. Et c'est celui qui s'est vautré.
Ouais, ça c'est vrai, puisqu'il finit troisième de mémoire.
En dernier.
Dernier ? Ah bah oui, t'as raison, en dernier. Ah, oui. Et bon voilà, son plat était joli, Raphaël, le dressage était sympa, mais peut-être un peu simple, non ? Il n'y avait quand même pas grand-chose dans l'assiette.
Ouais, effectivement, il n'y a pas eu l'air d'avoir grand-chose dans l'assiette. Pourtant, à mon sens, hein, il avait peut-être le légume le plus facile à travailler. Je trouve en termes de goût, de possibilité, de saveur par rapport à l'ensemble, puisqu'ils avaient le droit un peu à toutes les variétés du légume. Donc je trouve qu'avec les différentes carottes, il avait quand même de quoi s'éclater peut-être un peu plus. C'est le piège, hein, des fois, dans ce genre de truc. Ouais. T'as le légume qui parle plus facile, mais du coup, tu restes peut-être au classique. Tu tentes moins que quand t'as un légume hyper compliqué et tu pars moins dans quelque chose. Tu pousses moins l'ingrédient, on va dire. J'ai l'impression qu'il est un peu tombé, en fait, dans cette facilité-là. Il s'est concentré sur son vin de carottes et derrière, le reste était... Sans doute très bon, mais pas au niveau de ce qu'ont pu faire les autres. Donc, sur le moment, j'étais un peu surpris qu'il soit dernier, mais rétrospectivement, ça me semble pas illogique, in fine. Et c'est dommage parce qu'il était sur une belle dynamique, Michael. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais il est passé à côté.
On est d'accord. L'autre surprise d'hier soir sur le moment et avec le recul pour laquelle je comprends un peu mieux, eh ben c'est Louise qui était donc là pour cette deuxième épreuve, qui elle tombe sur Landive, qui de son aveu, hein, qu'elle déteste. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde dans le monde qui adore Landive, mais bon.
Les gens du Nord quand même, hein.
Oui, mais est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est par défaut? Je ne sais pas. mais bon, ouais, l'endive, ouais, ça me fait pas rêver. Et elle fait un dessert, donc c'est plutôt intéressant comme idée. Et elle fait une espèce de tarte noisette sarrasin avec un crémeux chicon, qui est une sorte d'endive, des noisettes caramélisées et de l'endive. Bon... La chef est assez agréablement surprise. Il y a une petite boisson, une infusion de café verveine à côté. Ça, j'ai l'impression que la chef, au moment où elle dit « Moi, je vais tout de suite vers le café », tu sens qu'il y a pas une petite addiction, mais une petite, j'aime bien le café, quoi. Et en fait, bah, c'est pas mal du tout. Au final, Seb, comme dit, surpris au moment de l'annonce de la victoire de Louise, mais avec le recul, je me dis que bah, ouais, c'est quand même bien mérité.
Ouais, c'est celle qui a pris le plus de risques, hein. C'est la seule qui a tenté un dessert. Voilà, tu la sens en panique quand elle découvre l'endive. Au final, son idée est bonne, la chef la met en garde, attention à l'équilibre amertume-sucre. Donc elle décide, elle, de jouer à fond sur l'amertume en mettant ses endives directement dans la braise. Peut-être ce qui a fait la différence. Tarte gourmande, la prise de risque était intéressante. Et toute l'amertume donc a contrebalancé la sucrosité. En plus, le visuel était sympa de sa tartelette.
Ouais.
Après, bah, franchement, sa première place, bon, moi j'étais plus parti sur Lilian sur un premier jet, mais bon, sa première place n'est pas non plus méritée.
Non, et on va du coup tout de suite revenir sur Lilian, qui lui hérite de la betterave. Là, à l'inverse de Louise, lui dit qu'il l'adore et qu'il la cuisine, qu'il aime bien. Et donc, il fait une betterave cuite, filmée, grillée au barbecue, donc en petit dé. Il fait un gazpacho, il en fait des pickles aussi, il en fait des chips. Hein, voilà, il fait plein de choses autour de la betterave. Il fait même une petite boisson betterave feuille de citronnier. Bravo. Et enfin, encore une fois, Raphaël, hein, Lilian, c'est un boulot de ouf, un dressage impeccable. Enfin, il n'y a pas un dressage raté depuis le début de la saison. Et on parlait de Louise tout à l'heure comme d'une des demi-finalistes très potentielles. Lilian, sur la lancée sur laquelle il est, et suite aussi à l'épreuve d'hier, de mercredi, difficile de l'écarter, non?
Ouais, t'as raison. Je pense que c'est l'autre grand favori de la saison. Tu l'as dit, pour moi, sa grande qualité, c'est cette technique qu'il a et cette capacité de dressage. Aucune assiette ratée depuis le début de la saison. À chaque fois, ces dressages sont vraiment tout le temps les plus jolis, ou on va dire peut-être le top 2 du plus joli. C'est lui, c'est vraiment le candidat laser, quoi. Tout est nickel, tout est carré. Il y a un peu de créativité, pas suffisamment, je trouve. C'est pas le candidat le plus créatif, mais il y en a suffisamment pour que ça sorte d'un truc trop classique. Non, il est vraiment très très fort. Ah, il tombe contre Louise, parce que peut-être que Louise va encore un peu plus loin pour le coup avec cet endive en dessert. Et c'est vrai que c'est pas commun, l'endive en dessert, pour le coup. Mais bon, ça avait l'air quand même, encore une fois, d'être un très bon plat. Et ouais, je vois mal comment il n'est pas dans le trio final.
Seb, d'accord avec Raphaël sur le fait que là, c'est la créativité de Louise qui l'a fait gagner face à Lilian sur cette épreuve?
Ouais, complètement. Comme dit Raph, moi aussi je le vois dans les trois derniers, il n'y a pas de souci. Et s'il se retrouve en finale, je pense que justement c'est sa technique qui peut le faire gagner. Et au contraire, je pense que c'est son manque de créativité qui peut ne pas l'amener en finale.
C'est vrai. C'est ce qu'on se disait un peu la semaine dernière. Si tu joues des épreuves face à d'autres candidats qui vont être très créatifs, tu auras du mal. Mais arriver en finale, on l'a vu la saison précédente, c'est pas le plus créatif. Hein, c'est celui qui fait vraiment le meilleur repas. Et là-dessus, Lilian a une chance. Donc, deuxième place pour lui. Donc, 4 points. Il a vite sorti les calculettes au moment des résultats et disait bah, on va finir à 4 points. Et il restait un dernier candidat, Sébastien, de la brigade Orange de Glenville, avec le haricot. Et alors, Sébastien, autant au début de saison, je le trouvais sympa, top, laser, tout ce que vous voulez, prometteur et tout. Mais plus les épisodes passent et plus, alors déjà, j'ai du mal parce que on nous le vend. Je pense pas que ce soit de son fait, mais on passe son temps à nous vendre le candidat enjoué, jovial, qui rigole, qui sourit tout le temps. Enfin, frérot, au bout d'un moment, je sais pas, ouais, ça commence un peu à m'agacer, je dois vous le dire. Et surtout, là, bon, son plat de haricots, la ligne de haricots, là, de toutes les couleurs comme ça dans le truc, bon, j'ai trouvé ça un peu simple, Seb. C'était censé être une salade avec différentes sortes de haricots, avec une vinaigrette rose, avec du gingembre, du piment, un cappuccino de haricots, bon. Mais bon, peut-être que c'est le visuel qui m'a pas parlé, mais au global, elle me faisait pas rêver cette assiette. Je sais pas ce que toi, elle t'inspirait.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est toujours le problème avec ça. Ben, je suis sûr que c'est délicieux même. Et pour te dire, dans son plat, ce qui m'a le plus attiré, moi, c'est son cappuccino. C'est même pas parce que c'est la ligne, c'est hyper classique, c'est toujours pareil. Et je pense que c'est ce qui peut lui jouer des tours dans les prochaines semaines, quoi.
Raphaël, le plat de Sébastien, facile, bien, efficace. Comment tu le qualifierais?
Ouais, efficace forcément, facile, j'oserais pas quand même dire
non,
facile.
Non, mais par rapport aux autres.
Oui, non, j'entends. Non, mais je pense qu'il était au coude à coude avec Mickaël hein, pour les deux dernières places. Je les sentais un peu en dessous des deux autres. Bon, voilà, c'était classique, mais c'est le Sébastien qu'on voit depuis pas mal de temps. Il fait les choses bien, proprement, mais il lui manque un peu la créativité, il lui manque un peu de technique, il lui manque un peu tout, et du coup, on a du mal à le voir. Il peut être dans les 4, voire 3 derniers, hein, c'est pas non plus impossible, je veux dire, c'est... Mais après, j'ai quand même du mal à le voir plus loin. On verra, et après, sinon, je te rejoins, le côté enjoué... c'était sympa, quand il y a deux saisons, il y avait Justine Peluso, ça avait duré 3-4 semaines.
Oui.
Sympa, là c'est un peu long, un peu long.
Ouais, on est d'accord. Et donc, au classement, Louise est première, Lilian deuxième, Sébastien troisième et Wilfried quatrième, ce qui nous fait, messieurs, que Louise est à 5 points et que tous les autres sont à 3 points, 4 points. Et à ce moment-là, moi j'ai eu peur d'une règle de « on a décidé que ceux qui avaient fini le plus haut sur le… » rien du tout. Eh ben, vous deviez être que deux, eh ben, vous serez trois. Et puis, ben, voilà. Et on arrête avec les chichis. On a dit que les deux qui se qualifiaient, les deux avec le moins de points iraient. Vous êtes trois, eh ben, vous êtes trois. Et à ce moment-là, c'est ce que tu as dit en début, Seb, c'est les chefs ont fait le choix d'envoyer ceux qui avaient le moins bien réussi, ceux qui avaient ramené le moins de points. Il y en avait un par brigade, il n'y avait jamais eu d'égalité. Donc, c'était très bien. Au moins, on envoie les moins méritants. Et c'est ce qu'on attend un peu de cette dernière chance aussi.
Tout à fait, excuse-moi. Ouais, non, il n'y a pas de souci sur ça. Voilà, après, bon, la dernière chance sur le magret. Voilà, c'est sympa. Après, je suis pas persuadé qu'en une heure, tu peux abattre énormément de travail autour du produit. Et la décision, bon, après, tu comprends rapidement qui va gagner et qui va se faire sortir, quoi.
Bah alors justement, moi j'ai un peu eu du mal à alors gagner en l'occurrence. Moi je trouve qu'on voit assez vite que Mickaël a l'air un peu plus à l'aise. Je sais pas toi ce que t'en as pensé Raphaël, mais très vite je me suis dit que bon, lui ça avait l'air à peu près safe entre guillemets avec son terre-mère.
Oui, c'est ça. C'était effectivement celui qui avait l'air d'aller un peu le plus loin et d'abattre le plus de travail. Donc disons qu'à partir du moment où le ad hoc ne prenait pas le pas sur le magret en termes de goût, je pense que c'était assez safe et que ça suffisait pour être dans les deux premiers, on va dire. Bon, après, c'était pas non plus, comme l'a dit Seb, hein, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de possibilités pour taffer le maglais en une heure comme ça. Et encore une fois, bah, c'est une dernière chance qui commence trop tard et qui est expédiée en 3 minutes. Quoi. Enfin, ouais. Franchement, c'est... À peine tu as eu le temps de te poser et de voir ce qu'il faisait, que à la limite, ça y est, ça partait en dégustation. Merci, au revoir, on y va. Quoi.
Tu me fais une excellente passe décisive, puisque j'allais justement dire que je commence à en avoir un peu ras-le-bol de cette dernière chance qui commence à 23h30 sur un agré. Et en plus, du coup, tu as raison, le rendu du montage fait que ça a l'air expédié. C'est qu'une heure de cuisine, donc c'est que ça va vite chez les candidats aussi, mais quand même, la cuisine, c'est 3 minutes par personne, donc 10 minutes au total à peu près. Derrière, une dégustation qui va assez vite aussi. Et ensuite, la dégustation des chefs, et puis évidemment la pub. Ce qu'il faut, hein, y a pas de raison. Et tout ça mis bout à bout, ça fait trop, quoi. Enfin, vraiment, moi, ça me fatigue à chaque fois. Et à chaque fois que... En plus, c'est vraiment genre... C'est bien le montage pour le dernier moment du dernier moment de la dernière phrase du chef pour te le lancer, quoi. C'est pas... et on va passer à la dégustation et au verdict. Pub. Non, c'est tout le verdict et la dernière chose... Ah bah pub. Vas-y, c'est bon, ça commence à vraiment me fatiguer. Et à chaque fois, tu te dis, là, ils vont pas oser. Eh ben si. Bon. Donc, ça relou. Et puis alors, sur les deux derniers, entre Wilfried et Arnaud... D'ailleurs, pour les plus observateurs, vous aurez noté que c'était la brigade de la philosophie de la guerre des restos qui était reconstituée avec Michael, Wilfried et Arnaud. Et j'ai été un peu surpris quand même de la décision des chefs d'éliminer Wilfried versus Arnaud, dans la mesure où, tu l'as dit, Seb, le magret, il n'y a pas 70 manières de le cuisiner non plus sur une heure. La prise de risque de Wilfried de faire des boulettes qui avaient l'air, pas exceptionnel, mais enfin, versus le truc d'Arnaud avec ses 4 kumquats et sa peau grillée, c'était pas. Voilà, moi, j'aurais préféré qu'on récompense la prise de risque et ça n'a pas eu l'air d'être le cas hier. Je ne suis pas déçu ou surpris ou quoi, mais bon, je suis un peu interpellé par ça, on va dire. Est-ce que c'est ton cas aussi, Seb?
Non, en fait, tu l'as compris dans la dégustation que les chefs, je pense qu'ils sont restés polis. Ils étaient pas vraiment, c'était bon, mais ils étaient pas emballés non plus. Après, je pense que quand tu leur annonces un magret de canard, ils s'attendent à un magret de canard, ils s'attendent pas à des boulettes de magret, quoi. Donc, moi, j'ai vite compris qu'il allait pas passer.
Ok, bon, bah, moi, je m'y attendais un peu moins. Toi, Raphaël, tu l'as senti aussi comme ça?
Je sais pas, j'avoue que je, peut-être un peu plus comme toi, je voyais pas très bien entre Arnaud et Wilfried qui allait s'en sortir. Après, par contre, je pense effectivement, comme l'a dit Seb, si Wilfried n'est pas sauvé, alors qu'il fait peut-être effectivement quelque chose d'un poil plus original, c'est qu'à mon avis, les boulettes ne vont pas être très bonnes en fait. Je pense sincèrement qu'elles étaient juste correctes, tu vois, et là, il s'est peut-être laissé un peu trop avoir par son personnage en fait, mec qui a fait le tour du monde, la street food, machin. Il sert des boulettes en demi-finale, enfin en dernière chance. Effectivement, c'est peut-être pas ce que les chefs attendaient, ou en tout cas, ça c'était pas assez quoi. Donc encore une fois, rétrospectivement, je me surprends pas tant que ça en fait.
En fait, c'est vrai que maintenant que j'y repense, au moment où les chefs coûtent, j'ai fait la réflexion à ce moment-là dans notre chat de dire ils ont l'air vachement sur la retenue, de pas trop défoncer le truc. Peut-être que ça a été coupé ou quoi, mais en effet, en tout cas, voilà. Wilfried donc s'en va. Tant mieux, tant mieux, non, mais disons que pour notre crédibilité, c'était l'avant-dernier du classement la semaine dernière, donc avec Arnaud face à lui qui était dernier, donc on est à peu près dans le vrai. Le classement, justement, messieurs, on va pouvoir en parler, je nous mets un petit jingle et on y passe tout de suite.
Samuel, c'est le patriarche de la saison, c'est le plus sage. Ouais, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con.
Allez, dernière minute.
Je te demande pas, on fait un enfant, non. Je te demande, est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas?
Messieurs, le classement de la semaine 13 de micro-ondes, donc post-semaine 12 de Top Chef. On va faire du bas vers le haut, comme toujours. avec un éternel dernier, mais qui, ben voilà, élimine petit à petit les gens placés au-dessus de lui, jusqu'où, je ne sais pas, mais bon, il passe pas loin à chaque fois quand même, hein, c'est Arnaud, pas de surprise, Raphaël, voilà, ça fait quand même quelques semaines, quand bien même il gagne la boîte noire la semaine dernière, qu'on sent que qu'il est peut-être un peu moins fort que ceux qui restent au fur et à mesure, mais il est toujours là.
Ouais, effectivement, il avait commencé très bas, il y avait une petite période d'une ou deux épreuves, notamment celle du pain, où il avait enchaîné deux belles semaines, et on s'était dit, ah ça y est, peut-être qu'enfin le déclic est là, et puis là, ces deux, trois dernières semaines, effectivement, c'est quand même plus compliqué, il est souvent dans les derniers, bon, la boîte noire, il gagne, mais c'est quand même l'épreuve qui permet le moins de juger les candidats, vu comment elle se déroule. Bon, ouais, le dernier logique, il paraît quand même moins technique que tous les autres, donc logique.
Ouais, bon, il est dernier chez tout le monde, hein. On est quatre à avoir fait notre classement cette semaine. Il y a également Ben qui n'est pas avec nous. Le cinquième est également unanime, puisque c'est Sébastien, messieurs. Sébastien, la dégringolade continue. Il était quatrième la semaine dernière, il passe cinquième cette semaine. Et Seb, encore une fois, c'est toi qui vas pouvoir nous en parler. Mais lui, j'étais pas loin de mettre Arnaud devant. Maintenant, Arnaud a complètement raté sa première épreuve, là où Seb s'en est à peu près tiré. Mais ouais, il faut qu'il fasse attention aussi, lui. Dans ma tête, ça se joue entre les deux pour le prochain éliminé.
Ouais, je pense qu'il a atteint son plafond, il progressera pas beaucoup plus. On voit qu'il a la technique, mais c'est pas non plus le meilleur. On voit qu'il a des idées, mais c'est pas le plus inventif. Sa place est méritée parce que voilà, il a rapporté plus de points qu'Arnaud et qu'il n'a pas fait la dernière chance.
Ouais, oui, c'est ça, il n'était pas en danger. Il aurait vraiment été en danger, quoi. Et au-dessus, le top 4, alors là, c'est un peu plus partagé. Il y a deux candidats qui sont très proches en termes de points et qu'on va pouvoir tout de suite traiter, messieurs. Ce sont Michael et Pascal. Michael, donc 4e, Pascal 3e. Pascal qui monte sur le podium pour la première fois de la saison, si je dis pas de bêtises. Oh, oui, je crois bien. Il a fait quelques top 4, mais jamais plus haut. Bravo, mon Pascal, je suis fier de toi, dirait Philippe Etchebest. Et je dis la même chose. Michael, Raph, on l'a dit, hein, une dynamique un peu moins importante. Et Pascal, là, qui sort vraiment un super plat hier et qui est, lui, sur une très bonne lancée aussi.
Oui, complètement. Pascal, il est en mode progression semaine après semaine. On le voit, ça fait deux semaines de suite où il a un peu plus de poids dans le sens où il fait les épreuves en solo. Il s'en sort plutôt bien. Sa dernière chance était bonne. Donc pareil, ça lui permet peut-être de sauver en dernière chance face à des candidats plus expérimentés. Ça doit booster aussi son moral. Ouais. Il sort une superbe épreuve créative, enfin tout y était, les compliments de Perret, du chef invité, etc. Donc non, il est sur la bonne dynamique, il a vachement de boulot. Vraiment, c'est le genre de candidat qui peut aller loin, hein, parce que il a beaucoup de qualités, très peu. En fait, on a l'impression qu'il a pas vraiment de défauts ou pas de. J'ai envie de dire que c'est un candidat avec un plancher. C'est correct, en fait. J'ai pas l'impression qu'il va se foirer totalement sur une épreuve, en fait.
Oh ouais, je suis assez d'accord avec toi. Seb, toi, tu as mis Michael au-dessus de Pascal. Est-ce que c'est parce qu'il en fallait un ou est-ce que tu as un argument précis qui explique ce choix-là?
Non, j'essaie d'être cohérent une semaine sur l'autre.
Oh, pardon, tu as mis Michael. Excuse-moi, je rectifie tout de suite.
J'ai mis troisième.
Ouais, Michael troisième, Pascal quatrième, c'est ça, pardon, vas-y.
Ouais. J'essaye d'être cohérent et en fait je ne voyais pas non plus tout fracasser d'une semaine sur l'autre. J'essaye d'être resté à peu près cohérent dans mon classement. Donc je l'ai mis là, après sa troisième place ne me choque pas et pour moi il est en bataille pour la troisième place pour les demi-finales.
D'ailleurs, si on prend juste notre Bah, on va finir le power ranking et puis on fera peut-être un tout petit projection pronostic. Mais au-dessus, c'est Lilian. Lilian, j'essaie de regarder vos classements. Non, alors il n'y a que moi qui l'ai mis premier. Bah, super, bravo, messieurs. Lilian deuxième, je vais forcément le défendre un peu. C'est vrai qu'hier, il n'arrive pas. Enfin, il finit deuxième derrière Louise. Peut-être que s'il avait gagné, vous auriez enfin reconnu son talent. Mais honnêtement, Lilian, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des dressages qui sont hyper réussis à chaque fois, qui sont toujours justes. Il y a de temps en temps quelques petits trucs en trop. Je repense, je sais plus quelle épreuve il avait fait, il avait mis des petits bouts d'oignons rouges qui dépassaient un peu. Bon. Mais à part ça, c'est laser, et je sais que le terme est très employé cette saison, mais je pense que c'est lui qui l'incarne le mieux. Il manque peut-être un tout petit peu de créativité, et encore, il a fait des trucs. Moi, je repense aux langoustines gelées, là. Il y a plein de trucs que j'ai trouvé très marquants chez lui aussi. Donc, deuxième place largement méritée. Derrière Louise, évidemment, c'est la star de cet épisode. C'est la star de Top Chef cette saison pour l'instant. Elle est numéro 1 de notre classement. Elle est numéro 1 chez vous tous, messieurs. Elle est 2 chez moi, c'est pas... Hein, ça va. Raphaël, est-ce qu'elle est la grande favorite aujourd'hui? Est-ce qu'on peut la qualifier comme ça?
Je suis pas sûr que ce soit la grande favorite. Je pense qu'elle est co-favori avec Lilian. L'écart entre les deux est infime. Moi, pour ma part, je l'ai mise première parce que, bon, déjà, elle gagne l'épreuve directe, on va dire, l'épreuve en concurrence directe avec contre Lilian hier. Donc, j'ai mis un petit bonus pour ça. Puis, je l'ai aussi un peu placée première pour embêter tous nos followers sur Twitter qui la démontent et qui, je crois, sont absolument... Vont encore plus gueuler quand ils vont voir qu'on l'a mise premier dans cet épisode, vu les sondages que tu as publiés tout à l'heure, mais on pourra peut-être en reparler après.
Je vais en parler juste après.
Ouais. Donc voilà, j'avais envie de la mettre en avant pour un ensemble de choses. En plus, je trouve que c'est le meilleur personnage peut-être de cette saison. Alors certains diront oui, mais il n'y a pas beaucoup de bons candidats cette saison. Bons candidats dans le sens télégénique, on va dire, du terme. Peut-être, en attendant, elle l'est, et sincèrement, si on refait les épisodes, si elle n'est pas là un peu à balancer des trucs et tout, je pense sincèrement qu'on s'ennuierait un peu plus. Bref, pour toutes ces raisons, j'avais envie de la mettre première, et voilà. Bah, Lilian est co-favori. Lilian est co-favori avec elle, je trouve.
Ça me va assez. Donc, on a Arnaud, dans l'ordre, pardon, du bas vers le haut, Arnaud, Sébastien, Michael, Pascal, Lilian et Louise. Est-ce que aujourd'hui, messieurs, ce top 4, Louise, Lilian, Pascal, Michael, ça peut nous faire nos 4 quarts de finalistes déjà, Sébastien?
Clairement, ouais. Je pense que le quatuor ferait pas tâche. Et je pense qu'il y a quand même un écart entre ces 4-là et les deux d'en dessous. Arnaud, bon, qui survit tant bien que mal.
Oui.
Semaine après semaine, et Seb qui est sur une pente descendante semaine après semaine, au contraire de Pascal et Michael qui ont su monter un régime au fil des semaines.
Ouais, je suis assez d'accord. Et donc, pour revenir sur le sondage dont parlait Raphaël, j'ai demandé ce matin sur Twitter à nos followers, n'hésitez pas à les rejoindre si vous êtes sur Twitter, @microondcast, pour nous suivre, qui était le numéro 1 du classement des candidats Top Chef sur l'ensemble de la saison, hein, pas sur l'émission juste de mercredi. Et j'ai proposé Louise, Lilian, Michael ou autre. Messieurs, sur 115 votes, à l'heure où je lis, il reste 15 minutes de vote, donc ça ne changera pas grand-chose. Lilian est en tête à 42,6% des voix, donc c'est très fort, soit, pourquoi pas. C'est Michael en deuxième à 27%, et c'est un autre à 21%. Louise n'a que 8,7% des voix. Donc, soit on est complètement délusionné, je ne sais pas comment on dit, on est complètement fou, soit il y a une... Ouais, une espèce de cabale, pardon, en tout cas une espèce de désamour contre Louise. Moi, je suis complètement de ton avis, Raphaël. Hein, je crois vraiment qu'elle est co-favorite de cette saison et que, en plus, ce caractère trempé que, comme j'ai dit tout à l'heure, qui m'énervait un peu au début de saison, bah, j'ai appris à faire avec, à l'apprécier. Puis ça fait quand même des beaux moments de télé quand elle s'acharne sur son gras de bœuf. On a bien rigolé. Donc bon, voilà. Je dirais pas que vous êtes fou, mais quand même, vous êtes pas loin. Voilà, donc c'est très bien cet épisode spécial Louise, on espère qu'elle l'écoutera et qu'elle nous fera un mot. Pour une fois, tu vois, cette saison, j'ai pas trop tagué les candidats sur Instagram, parce que d'ailleurs vous avez remarqué, on a toujours invité personne cette saison. On est bien entre nous cette saison, on verra si jamais ça change d'ici la fin de l'année, mais peut-être qu'on lui mettra un petit tag en mode « nous on croit en toi ». Et peut-être qu'elle sera là la semaine prochaine. Ouais, on verra, clairement. On verra, ce sera chouette.
Clairement, ça mérite, ouais. Ça mérite Raoul, parce que là, je veux bien qu'on trouve plus fort Lilian, voire Mickaël, hein, sur l'ensemble de la saison. Les Bleus ont gagné beaucoup d'épreuves, etc. Mais alors, un autre candidat que Louise, j'avoue que là, par contre, je suis surpris. Donc, expliquez-nous hein, sur Twitter pourquoi vous pensez qu'on se plante à ce point-là sur Louise, en fait. Parce que
Tu sais que je viens de lire.
Comme Raoul, je ne sais pas.
Le dernier qui nous a répondu sous le sondage, c'est. Alors, je suis désolé, voilà, je balance. Tu ne l'avais peut-être pas souhaité, mais ce sera quand même le cas. Sébastien S. Donc, encore un autre Sébastien, décidément. @SebNowhere. Voilà, vous pouvez aller le follow aussi, n'hésitez pas. Qui nous dit, avant hier soir, j'aurais dit Mickaël, donc en premier, car il a été très impressionnant sur les dernières semaines, puisque vrai, ça se joue à rien avec Lilian, mais en troisième, il ne faut pas oublier le crack Pascal. Donc Louise n'est même pas dans le top 3. Et en fait, ça rejoint un peu le sondage, c'est que dans la tête des gens, Louise est plutôt, je pense, quatrième. Et encore, alors là, il y a des gens qui vont nous dire, mais non, Seb est meilleur, ou Arnaud est meilleur, et là, je vais jeter mon ordi par la fenêtre. Mais bon, voilà. Peut-être pouvons-nous tous nous accorder, mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices, sur le fait que vous sous-estimez un peu Louise, en tout cas, si vous vous êtes exprimé sur Twitter. Voilà, je crois qu'on a plaidé notre cause pour notre candidate préférée. Ben, c'est notre candidate préférée, puisqu'il ne reste plus qu'elle comme candidate. Et qu'on va pouvoir terminer cet épisode là-dessus. Messieurs, on a été, oh là là, mais qu'on a été efficace, on fait moins d'une heure. C'est beau quand même. Merci donc à toutes et tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les différentes plateformes de streaming habituelles de podcast. Et vous pouvez retrouver nos différentes pérégrinations sur les réseaux sociaux, @microondescast sur Twitter et Micro-ondes Podcast en entier sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à venir nous faire vos retours, à nous envoyer vos mots doux et vos messages incendiaires. Ils nous font toujours autant marrer. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Raphaël, merci.
Merci à tous les deux.
Et puis Seb également, un grand plaisir de t'avoir retrouvé.
Merci beaucoup, merci à vous. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Oui. Rejoignez le train, Louise, avec nous.
Bien sûr, venez dans le train. Et alors, pour les auditeurs qui écoutent l'émission de demain, ils sont déjà. Mais Seb, je te souhaite une bonne, belle soirée. Toi, le fan de l'Olympique de Marseille, bien sûr.
Et on va espérer. Voilà. On va espérer. On ne porte pas éventuellement un voyage à Tirana dans quelques semaines.
Voilà. On ne porte pas malheur, on n'en parle pas plus. D'autant que peut-être que nos auditeurs ne sont pas au courant. Mais si, vous le savez, puisque M6 en fait la promo en long, en large et en travers ce soir sur M6. Voilà, on fait même de la promo à M6, on est trop sympa. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer l'épisode 13 de la saison 13. Oui, c'est ça. On sera à l'épisode 14. C'est tout bon. Excellente fin de semaine, très bon week-end, bon appétit et à bientôt. Ciao, ciao.
Allez, mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi.
Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadeau.
Je veux toilette.
Oh, le con.
Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
On se permet un petit mot avant de vous laisser. Si vous aimez les podcasts de TDA Média, n'hésitez pas à jeter une oreille à Occupation, notre émission de reportage. Toutes les deux semaines, je vais sur le terrain à la rencontre de gens qui me font partager leur métier ou leur hobby. Barbier, marathonien, développeur, restaurateur et bien d'autres à venir, c'est dans Occupation que ça se passe, un mercredi sur deux, sur toutes les plateformes de podcasts habituelles.